Je continue mon parcours de l'évangile de Marc. On n'est pas encore au bout. En tout cas, c'est vraiment... C'est merveilleux comment on voit, on apprend à mieux connaître le Seigneur au travers de sa parole et notamment de l'histoire de sa vie. Et voilà, donc on est là tous réunis par rapport à toujours mieux le connaître et donc on continue son parcours qu'il a fait sur terre. Et ce message s'intitule, le titre que j'ai... Alors, si vous, est-ce que vous vous rappelez du titre du précédent message ? C'était « Jésus, maître ou Seigneur ?» Point d'interrogation. Aujourd'hui, le titre du message, ça sera « Jésus, maître ou époux ?» Point d'interrogation. Voilà. Et donc, je vais prier. Seigneur, je te remercie encore de nous avoir laissé ta parole. Seigneur, fais silence dans nos cœurs pour que, Seigneur... Tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche d'être pleinement attentifs, Seigneur, nous le laissions dehors, Seigneur, et rends-nous pleinement attentifs à ta parole. Fais-la, merci parce qu'elle est vivante, qu'elle agisse dans les vies de chacun ici présent, Seigneur, de nos vies. Et Seigneur, merci de nous l'avoir laissée, qu'on en apprécie tous les contours, Seigneur, toute sa valeur, Seigneur. Merci encore parce que tu veux bénir ton Église à travers ta parole. Merci encore, Seigneur, de nous mettre dans ta volonté. Je me repose sur toi, Seigneur, pour ce message, pour ces moments. En Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Voilà, donc, pour situer là où on s'est arrêté, on est donc dans la semaine sainte, hein, dans la dernière semaine de Jésus, avant sa crucifixion. Et donc, la dernière semaine, eh bien, il est assailli de questions par les religieux, les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, qui veulent le confondre sans succès jusque-là. Alors c'est maintenant au tour des Sadducéens. Les Sadducéens, je vais y revenir, qui sont-ils ? C'est au tour de ces religieux, les Sadducéens, de venir le questionner. Est-ce qu'ils vont réussir là où d'autres ont échoué ? Vous le savez, non, ils ne vont pas réussir à confondre Jésus. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc, à reprendre à partir du chapitre 12, verset 18. Je lirai en deux temps, je lirai déjà dans un premier temps jusqu'au verset 34. Donc Marc chapitre 12, à partir du verset 18. Marc 12, 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. » Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. La vérité que j'ai choisie, en tout cas qui m'a paru évidente dans ce passage, et la suite aussi qui suit, c'est que Dieu nous offre une alliance éternelle, plus excellente que l'alliance de la loi, l'ancienne alliance, parce qu'il s'agit de l'alliance d'un mariage avec son peuple, du mariage de Dieu avec son peuple. Dieu nous offre une alliance éternelle plus excellente que la loi, celle d'un mariage avec son peuple. Je verrai ça en deux points. Premièrement, nous verrons le but du mariage sous la loi de l'ancienne alliance. Et deuxièmement, nous verrons quel est le but ultime de Dieu pour nous, tous. Premièrement, donc, voyons le but du mariage sous la loi de l'ancienne alliance. Donc, les Sadducéens, qui sont-ils? Eh bien, ils étaient différents des pharisiens. C'étaient des religieux, et les pharisiens attachaient plus d'importance à l'écriture qu'aux pharisiens. Les pharisiens, eux, attachaient beaucoup d'importance à leur tradition. Alors, c'est un bon point, attacher l'importance à l'écriture. Mais, il y a un mais, les Sadducéens ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas, ils étaient plus rationnels, les Sadducéens. Ils ne croyaient pas à la résurrection corporelle. Ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Ils ne croyaient pas aux anges ni aux esprits. Vous avez une définition dans la Bible même, en Actes, chapitre 23, verset 8, qui reprend. J'ai tiré de ce passage. Et donc voilà ces Sadducéens qui sont très rationnels, qui ne croient pas à la vie après la mort. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne croient pas à la vie après la mort. Et ça en arrange plus d'un. Malheureusement, la réalité est tout autre. Il y a bien une vie après la mort. Je vais y revenir. Donc voilà les Sadducéens qui veulent tendre un piège à Jésus en se basant sur une loi de Moïse qui est celle appelée la loi du Lévirat et qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 25, versets 5 et 6. Si vous voulez la référence, je ne vais pas la lire, mais je vais résumer. Chapitre Deutéronome 25, 5 et 6. En résumé, si un homme mourait sans enfant, eh bien cette loi du Lévirat stipulait que son frère devait épouser donc la veuve pour lui susciter une postérité afin de perpétuer le nom de la famille et par là même de conserver l'héritage de la famille. Donc c'était une loi qui était en fait là pour perpétuer les tribus d'Israël, pour qu'elles se perpétuent. Le nom de la famille et l'héritage. Mais problème, c'est ce que les Sadducéens soulèvent, si le frère meurt, donc voilà, il y a un couple, le mari meurt, la veuve est là, le mari a des frères, elle se marie une première fois avec le frère meurt, sans lui avoir donné d'enfant. Il a un deuxième frère, la femme épouse à son tour le deuxième frère. Et ainsi de suite, les frères meurent successivement sans avoir donné d'enfant à la famille, à cette femme. Il y en a sept, ils meurent tous, vient le moment où la femme meurt aussi. Question, piège, les Sadducéens. De qui la femme sera-t-elle la femme, l'épouse, à la résurrection? S'il y a une résurrection. Question qui ne va pas troubler le Seigneur. Et c'est une question qui devrait aussi nous intéresser, parce que je ne sais pas si dans votre entourage, dans vos discussions, vous êtes déjà heurté à des personnes qui ne croient pas à la vie après la mort. Soit c'est trop beau pour eux parce qu'ils espèrent tellement revoir leurs proches et ils n'osent pas y croire, soit ils sont très rationnels, comme les Sadducéens, et ils n'y croient pas. Donc c'est une question qui a cours aujourd'hui. Il y a même des groupements religieux qui ne croient pas à la vie après la mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait si, je ne sais pas si vous avez été déjà confronté à ça, qu'est-ce qu'on leur dit dans ce cas-là? Alors, est-ce que vous avez rencontré de l'incrédulité, voire de la moquerie, quand vous avez parlé de résurrection, c'est possible? En tout cas, Jésus leur dit une réponse. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, pour nous aider, la résurrection, elle est attestée par les deux. Par ce que dit l'Écriture, ce qui veut dire avoir foi en elle, et bien sûr par la puissance de Dieu qui peut ressusciter des morts. Alors si on ne sait pas comment répondre, et effectivement la résurrection n'est pas rationnelle, on ne peut pas l'expliquer avec nos propres mots, et bien citons l'Écriture. Notre foi, elle est basée sur elle, notre communion avec Dieu est basée sur l'Écriture qui ne ment pas, c'est la parole de Dieu, et notre espérance est basée sur l'Écriture. Les Sadducéens mettaient les livres de Moïse au-dessus des autres livres. Eh bien, Jésus va aller sur leur terrain en rappelant l'épisode du buisson ardent où Dieu avait parlé à Moïse. Et Jésus cite Exode 3, verset 6, où Dieu a dit à Moïse : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Dieu a dit cela à Moïse, les trois étaient morts. Ils étaient déjà dans le tombeau. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Et pourtant, Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, verset 27. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Des promesses concernant le pays promis, des promesses concernant la venue du Messie. Et ces promesses ne se sont pas accomplies du temps des patriarches. Elles ne se sont pas accomplies du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de leur vivant. Mais Dieu tient toujours ses promesses. C'est impossible que Dieu mente. Donc, la résurrection, aussi bien la résurrection des patriarches que notre résurrection, c'est une nécessité absolue, parce que Dieu avait promis. Et les Sadducéens auraient dû le savoir, eux qui étaient versés dans les Écritures. Voilà pourquoi Jésus leur dit qu'ils sont grandement dans l'erreur. Peut-être qu'ils le savaient, mais le problème était qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu. Et Dieu, eh bien, nous le savons tous, il a montré qu'il est assez puissant pour ressusciter des morts. Il a ressuscité Lazare et son fils Jésus. Il a ressuscité d'entre les morts. Conformément à ce que disait l'Écriture. C'est l'Écriture et la puissance de Dieu qui attestent la résurrection. Jésus lui-même, Jésus ressuscité, avait dit aux pèlerins d'Emmaüs, en Luc 24, 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Jésus lui-même l'atteste. Alors la foi en la résurrection, elle est cruciale. Parce que la résurrection, c'est le fondement même de notre foi. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 16, a dit ceci, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Ne pas croire en la résurrection, c'est rester dans ses péchés. C'est ne pas avoir ses péchés pardonnés. Alors cette loi du Lévirat, elle visait à perpétuer le peuple hébreu, le nom de la famille, l'héritage. Mais pour Jésus, c'était pas ça le plus important. C'était pas ça le plus important. C'était pas la vie sur terre qui était le plus important, c'était ce qu'il y a après la mort. Pour Jésus, l'aspect physique du mariage, d'assurer une postérité après la mort, selon la loi de l'ancienne alliance, c'était pas une fin en soi. Le plus important, c'est la vie future après la mort. Encore faut-il y croire. Certains n'y croient pas. Et ça a rendu bien certains. Mais ils sont grandement dans l'erreur. Alors, nous sommes dans la période de la Toussaint. La fête des morts, que certains fêtent les morts. Ça va de pair avec Halloween. C'est une période où les fleuristes font un bon chiffre d'affaires. Beaucoup vont au cimetière pour se rappeler leurs proches, se recueillir sur leurs proches. Leurs proches qui sont décédés, leurs proches qui leur manquent, parce qu'ils supportent mal la séparation. Alors, eh bien, certains vont se recueillir sur la tombe pour se rappeler, c'est là qu'est enterré leur proche, et c'est de là qu'ils ressusciteront. Et certains aussi, supportant tellement mal la séparation qu'ils leur parlent. Ils parlent aux morts. C'est une tradition, beaucoup parlent aux morts. En fait, ils croient leur parler, mais les morts n'entendent plus rien. Ils ne les entendent plus. Quelqu'un dans le deuil a besoin d'une consolation. Alors il leur parle. Mais ils sont morts. Ils ne sont pas encore ressuscités. À la place, on peut parler à celui qui est ressuscité, qui a été mort et qui est ressuscité d'entre les morts. À la place, c'est possible, on peut parler à celui qui est vivant. Parler à un mort, il n'entend rien. Parler à Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, il veut consoler ceux qui sont dans le deuil. Et il peut le faire, parce qu'il a connu la mort, il est ressuscité. Jésus, dans sa réponse aux Sadducéens, il donne une véritable consolation, une formidable espérance à tous ceux qui ont perdu un proche. Si nos proches sont croyants et qu'on les a perdus, parce qu'ils sont décédés, Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'on se retrouvera à la résurrection. Et même, non seulement on se retrouvera, la question a été posée parfois, mais même on se reconnaîtra. Oui, je crois qu'on se reconnaîtra. Alors, les liens matrimoniaux ne se perpétueront plus à la résurrection des morts, puisque les femmes ne prendront plus de mari, ni les maris de femmes. Mais on se reconnaîtra. La Bible dit que, à ce moment-là, eh bien, nous serons comme des anges. Le roi David, il avait perdu son bébé, qui était né de son adultère avec Bathsheba. Et il a dit une parole qui montre qu'il était sûr de retrouver son bébé. En 2 Samuel 12, verset 23, voici ce qu'il a dit. « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Il savait qu'il retrouverait son enfant à la résurrection. Donc cette joie de retrouver nos proches à la résurrection des morts, je précise, nos proches qui sont croyants. Mais il y aura une joie encore plus grande que celle de retrouver nos proches à la résurrection. Ça sera la joie d'être avec le Seigneur et de le voir face à face. Cette joie sera encore plus grande que celle de retrouver nos proches que nous aimions tant et qui sont décédés. Voilà quelle devrait être notre véritable espérance, de voir le Seigneur face à face. Alors peut-être il y a eu des proches que vous aimiez, des proches qui ne croyaient pas en Dieu, qui n'ont pas confessé Jésus. Il y aura une résurrection aussi pour eux. Là encore, si on ne les retrouve pas à la résurrection, si on ne les retrouve pas au ciel, la joie de voir le Seigneur face à face sera plus grande que la déception de ne pas voir ses proches qui n'ont pas cru. Mais prions pour eux, s'ils sont encore vivants, pour qu'ils croient. Alors, après cette question des Sadducéens, un scribe a entendu, il a prêté l'oreille, il a entendu la réponse de Jésus. Et voilà qu'il vient vers Jésus, un scribe qui semble sincère, hein, contrairement aux Sadducéens. Et il lui pose à son tour une question, et pas n'importe laquelle, verset 28, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Quel est le premier de tous les commandements ? Donc mon deuxième point, j'en viens à mon deuxième point, qui est le but ultime de Dieu pour nous tous. Et qui est la réponse à cette question. Quel est le premier de tous les commandements ? Alors cet homme, c'était un scribe. Donc il était versé dans les Écritures. Il recopiait les Écritures à la main. Il connaissait parfaitement les Écritures. Et n'en doutons pas, il connaissait la réponse à cette question. Qui est cruciale. C'est une question qui nous ramène au but de l'existence même. Pourquoi suis-je sur terre ? Alors il connaissait la réponse. Jésus ne lui dit pas, bon, tu connais la réponse. Jésus va lui répondre, parce que ce premier commandement, il faut le répéter et le répéter. Jésus va lui répondre en citant l'Écriture. Il va citer Deutéronome chapitre 6. Et ce premier commandement, eh bien, il commence par un préalable indispensable qui est s'arrêter de parler pour écouter. Écoute, Israël, c'est le Shama. Israël, en hébreu. S'arrêter de parler pour écouter, parce que c'est le plus important de tous, ce commandement. Et je relis les versets 29 à 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le premier et le deuxième. On ne peut pas séparer le premier du deuxième. Ces deux commandements sont indissociables. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, il y a deux parties. La première concerne notre relation à Dieu, notre amour pour Dieu. La deuxième partie concerne notre relation avec notre prochain. Donc on retrouve cet ordre-là dans les 10 commandements. Aimer Dieu et aimer notre prochain, comme nous-mêmes. En Matthieu 22, 39, Jésus a dit que le second commandement, il est semblable au premier. En Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tout aussi important que le premier. D'aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute sa pensée. Et donc le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça nous amène tout naturellement à une autre question. Qui est mon plus proche prochain? Puisque Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même, qui est mon plus proche prochain? C'est qui ton prochain, ton plus proche prochain? Alors si tu es marié, ton plus proche prochain, ne cherche pas plus loin, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint. C'est notre conjoint, notre plus proche prochain. Et on va voir, c'est important pour la suite. La réponse de Jésus, tu aimeras, elle revient à nous demander à chacun d'entre nous, qui est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Quelle est la personne que tu aimes le plus au monde? Pourquoi? Parce que ce que tu aimes le plus, c'est ce à quoi tu attaches le plus de valeur, c'est ce pourquoi tu vas vivre. Et aussi, ce que tu aimes le plus, c'est ce qui te définit. Ton identité dépend de ce que tu aimes le plus. L'identité du chrétien, c'est le thème du 11 novembre, à Gramma. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qui est-ce que tu aimes le plus? Cette question est importante parce que si nous perdons ce que nous aimons le plus, qu'est-ce qui reste? Si nous perdons ce que nous aimons le plus, qu'est-ce qui reste? Que reste-t-il? Eh bien, ça dépend de notre réponse à cette question. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Dans les deux premiers commandements, il est question du Seigneur, il est question de mon prochain et il est question de moi-même. Alors, quelle est la réponse? Quelle est ta réponse? Qui est-ce que tu aimes le plus? Est-ce le Seigneur? Est-ce ton prochain? Ou peut-être est-ce toi-même? Les trois sont inséparables. Je vais y revenir. Dans son commentaire du disciple, M. MacDonald a dit ceci, je trouve que ça résume bien. Il a dit que nous devrions aimer Dieu plus que nous-mêmes et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devrions aimer Dieu plus que nous-mêmes et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aujourd'hui, on est dans une société où parfois, oui, on met l'amour du prochain. Il faut aimer, il faut s'aimer, il faut faire du bien, il faut beaucoup de bienveillance. Mais en mettant Dieu de côté. Ça s'appelle de la philanthropie. Croire en l'homme. Aimer l'homme. Et on oublie l'amour de Dieu. Pourtant, le Seigneur les met au même niveau. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, on entend dire souvent, ils s'aiment, alors laissons-les faire ce qu'ils veulent. Tout est permis. Du moment qu'ils s'aiment. Encore faut-il définir ce que c'est que le véritable amour. L'amour sans Dieu n'est pas de l'amour. On peut aimer beaucoup son chien, mais pas de la même manière qu'une personne. Ce n'est pas le même amour. Et l'amour est plus qu'un sentiment. L'amour, il est actif, il est engagé. Il implique la personnalité de tout son être, toute la personnalité tout entière. C'est pourquoi le mariage entre un homme et une femme, le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement d'aimer l'autre dans ses bons comme dans ses mauvais jours. Un engagement de lui rester fidèle. Un engagement, quand on se marie, c'est pour la vie. Le scribe approuve la réponse de Jésus, qu'il va reprendre. Il approuve la réponse de Jésus, il lui dit « Bien, bien, maître. » Jésus a vu qu'il avait répondu avec intelligence. Mais on peut se poser la question, à partir de la parole de Jésus, est-ce que le scribe aimait-il Dieu de tout son cœur, d'après le premier commandement? La réponse de Jésus nous interpelle, il lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Sous-entendu, il n'y était pas encore rentré. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore son Seigneur. Il approuvait ce que disait Jésus. Mais était-il son Seigneur? La réponse de Jésus laisse entendre qu'il ne l'était pas encore. Le scribe connaissait très bien les Écritures, mais connaître les Écritures ne suffit pas. Connaître les Écritures avec son intelligence, oui, c'est aimer Dieu de son intelligence. Mais est-ce de tout son cœur? Est-ce de toute sa force? Connaître les Écritures intellectuellement ne suffit pas, même si c'est déjà un pas. Il faut un changement de cœur. Il faut une vie intérieure transformée et non pas une religiosité de façade que Jésus va condamner chez les scribes, dans la suite du texte. Comment arriver à aimer Dieu selon le premier commandement? Comment arriver à aimer son prochain selon le deuxième commandement? C'est pas facile, hein? Comment y arriver? Je vais lire la suite du texte. À ce stade-là, personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Verset 34. Et cette fois, c'est Jésus qui va poser les questions pour nous faire réfléchir et pour nous amener justement à rendre cet amour possible. Je reprends à partir du verset 35, donc Marc, chapitre 12, le verset 35. Je reprends ma lecture. 12, 35. Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes, ils désirent se promener en robe longue, ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Jusqu'ici, parole de Dieu. Mon troisième point, eh bien, c'est que malgré l'infidélité des hommes, la fidélité de Dieu a rendu possible notre adoration, a rendu possible l'observation du premier et du deuxième commandement. C'est possible. Malgré notre infidélité, malgré l'infidélité des hommes. Cette fois, c'est Jésus qui pose les questions et sa question vise à confondre les scribes qui disent que le Christ est le Fils de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Christ, le Seigneur. Pourtant, Jésus a été acclamé comme le Fils de Dieu par la foule quand il est rentré à Jérusalem. Et pour paraphraser sa question, Jésus demande « Comment le Christ est-il à la fois le Fils et le Seigneur de David ? Comment est-il son Fils et son Seigneur ?» Pour ceux qui sont rationnels, il n'y a pas une question, il n'y a pas une réponse rationnelle à y donner. Les scribes, c'est une question, pour eux, c'est une question difficile, c'est une question irrationnelle. Parce qu'il faut, croire, effectivement, à l'Écriture pour y répondre. Au verset 36, Jésus cite un psaume qui est un psaume messianique. C'est le psaume 110, verset 1. Où David, c'est un psaume de David, David parle du Messie à venir comme de son Seigneur, assis à la droite de Dieu. Je relis donc le verset 36, qui est la citation du psaume 110, verset 1. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » La réponse, elle est là, elle est dans ce verset, la réponse de Jésus à sa propre question. Enfin, la réponse qu'on peut tirer, puisque c'est à nous d'en tirer la réponse. Le Seigneur a posé la question. La réponse est donc, eh bien, en tant que Seigneur de David, le Messie ne pouvait être que Dieu. En tant que Seigneur de David, le Messie est Dieu. Et en tant que fils de David, le Messie est de la lignée de David, donc un homme. Le Messie devait donc être à la fois homme et à la fois Dieu. Et Dieu a accompli fidèlement sa promesse, la promesse qu'il avait donnée à David même dans le psaume 89. Je vais lire quelques versets, psaume 89, versets 2 et 3, qui sont la promesse de Dieu à David même. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Et je reprends versets 34, 35 et 36. Donc, parole de l'Éternel. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Formidable espérance. L'alliance de Dieu avec David, elle est éternelle. L'alliance de Dieu avec David, elle est éternelle, même après sa mort. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et parce qu'il est fidèle. Il a tenu sa promesse. Que le Messie serait issu de la descendance de David. Il a tenu sa promesse que le Messie serait issu de la descendance de David. Tout ne s'arrête donc pas avec cette vie sur cette terre. Qui est ce Messie ? Eh bien, c'est Jésus. Jésus est le Messie, il est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de David. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que ça change quelque chose de le savoir ? Eh bien, en tout cas, oui, ça devrait. Parce que cet état de fait, l'identité du Messie, à la fois homme et Dieu, c'est déjà le début de ce qui, l'observation des deux premiers commandements est rendue possible parce que Jésus est à la fois homme et Dieu. À partir de ce qu'il est, nous verrons après ce qu'il a fait. Et déjà, son identité même rend possible que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Pourquoi c'est possible ? Ça s'est devenu possible en Jésus-Christ parce que Dieu lui-même s'est fait notre prochain. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu lui-même s'est fait notre prochain et pas n'importe lequel. Dieu s'est fait notre plus proche prochain. Dieu lui-même s'est fait notre plus proche prochain. Alors notre prochain, il n'est pas lointain. Avant même notre conjoint, notre plus proche prochain, c'est Dieu. Dieu fait homme en Jésus-Christ. Il est venu pour ça, pour être avec nous. Dieu est homme à la fois. Alors on se dit, après l'histoire de cette pauvre veuve, qu'est-ce que ça vient faire ? Eh bien, cette histoire de cette pauvre veuve, ça va mettre en contraste deux attitudes complètement opposées. Celle d'une pauvre veuve, qui n'a rien d'autre qu'un quart de sou, avec l'attitude des scribes, une attitude complètement différente. En mettant les deux en rapport, et si c'est là, c'est qu'il y a une raison, si ces textes sont dans cet ordre-là, eh bien, on voit vraiment la différence entre une attitude où il n'y a pas d'amour et une attitude où il y a de l'amour. Dans ce qui suit, Jésus va mettre en contraste l'attitude des deux pour illustrer ce qu'est le véritable amour, c'est-à-dire l'amour dont il est question dans les deux premiers commandements. Pour nous expliquer ce qu'est le véritable amour. Alors ces scribes-là, Jésus nous dit, gardez-vous des scribes. Tous les scribes ne sont pas malveillants. Celui qui est venu voir Jésus, il avait pas de mauvaises intentions, en tout cas en apparence. Mais d'autres, effectivement, il fallait s'en méfier. Et Jésus nous dit comment les reconnaître. Ce sont des religieux qu'on voit déjà à leur apparence. Ils se distinguaient du bas peuple, entre guillemets, par leur apparence de soi-disant sainteté, qui n'est que de la fausse piété, qui n'est que de l'hypocrisie. Ils donnent beaucoup d'importance à ce qu'on appellerait aujourd'hui les signes ostentatoires. Vous savez, les signes ostentatoires qui montrent quelle est notre religion, quelle est notre croyance. Pour certains, c'est le voile. Pour eux, c'était des robes longues. Ils font leur signe ostentatoire pour être reconnus. Ils font en public des longues prières pompeuses apprises par cœur, mais qui sonnent creux. Ils aiment tout ce qui flatte leur égo. Les places d'honneur dans les synagogues, les premiers sièges dans les repas. Bien sûr, ils aiment l'argent. On l'a déjà vu par le passé. On l'a vu dans les précédents textes. Ils aiment l'argent jusqu'à déposséder les veuves de leur minimum vital, sous prétexte que c'est pour le Seigneur. Et Jésus Jésus est sévère, il est particulièrement sévère. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère, nous dit Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient les Écritures. Ils agissaient ainsi malgré leur connaissance de l'Écriture. Ils connaissaient bien l'Écriture, la loi. Et malgré cela, ils agissaient de cette façon-là. Et on peut se poser la question par rapport aux deux premiers commandements qui concernent notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain et notre amour pour nous-mêmes. Où se situent les scribes par rapport à ces trois-là ? Enfin, Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Eh bien, ils n'ont gardé que l'amour de soi. Ils n'ont gardé que l'amour de soi. Ils n'aimaient ni Dieu, ni leur prochain, comme eux-mêmes. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'ils s'aimaient eux-mêmes. Mais ils n'aimaient pas Dieu, et ils n'aimaient pas leur prochain. Alors, aujourd'hui, depuis quelques années, je lis un livre de psychologie chrétienne, on peut dire, qui ne fait pas de la publicité pour les livres qu'on trouve dans les librairies chrétiennes, qui parle de beaucoup de psychologie chrétienne. Pourquoi ? C'est un livre de psychologie lui-même hein, qui nous réveille quand même. On trouve beaucoup de livres dans les librairies chrétiennes sur l'estime de soi, comment s'aimer soi-même, comment s'épanouir. On aspire tous à cela, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que ces livres ont laissé rentrer la psychologie humaniste dans la librairie chrétienne. Ils ont laissé rentrer la psychologie moderne du monde les influencer. Ils n'ont gardé que l'amour de soi. Alors, dans certains livres, bien sûr, parlent de l'amour pour Dieu. Mais aujourd'hui, très clairement, il y a des méthodes qui sont reprises, des méthodes de psychanalyse moderne, où on ne parle pas du péché comme cause première du malaise de l'homme dans cette psychanalyse. Pourquoi ? Parce que la psychanalyse, je veux dire, dans le monde, n'a gardé que quoi ? N'a gardé que l'amour de soi, l'estime de soi, mettant Dieu de côté et l'amour du prochain de côté. C'est la grosse différence. Alors, il existe une relation d'aide, mais celle-là, elle est biblique. Elle doit se baser sur les conseils que nous donne la parole de Dieu. Et il y a d'excellents livres qui parlent de comment aider son prochain à partir de ce qui est dans la Bible. Donc, les scribes n'avaient gardé que l'amour de soi. Clairement, ils n'aimaient ni Dieu, ni leur prochain, allant jusqu'à déposséder les veuves. Et Jésus va mettre en contraste l'avarice des scribes, leur souci de l'apparence, avec une attitude cachée du cœur que seul Dieu voit chez une veuve, une pauvre veuve, et l'altruisme, l'abnégation de cette pauvre veuve. La pauvre veuve qui va mettre dans le tronc une offrande à Dieu qui peut sembler insignifiante, un quart de sou. Mais pour Jésus, elle a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et la préoccupation du Seigneur, quand on donne, c'est pas combien tu donnes, c'est comment tu donnes. C'est pas combien tu vas donner, c'est comment tu donnes. Cette pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. L'argent n'a aucune valeur au ciel, mais pas le cœur, pas l'attitude du cœur. Le trésor de la veuve, c'était même pas son ex-mari ou ses ex-maris si elle a été mariée plusieurs fois. Le trésor de la veuve, c'était le Seigneur lui-même. La preuve, elle a donné tout ce qu'elle avait pour le Seigneur. Par son don, eh bien, cette veuve a exprimé qu'elle faisait entièrement confiance au Seigneur. Elle a exprimé que tout appartient à Dieu et qu'il est donc digne de tout recevoir. Cette pauvre veuve, elle a préféré tout lui donner plutôt que d'économiser pour ses vieux jours. Et elle savait qu'elle n'y perdrait pas. Le don de cette veuve montrait sa totale confiance dans le Seigneur, qu'il pourvoirait. Et ça a aussi montré quelque chose en elle, ça a montré son amour. Son amour pour lui, parce que le véritable amour se sacrifie. Cette pauvre veuve est l'illustration que le véritable amour, celui qu'on trouve dans les deux premiers commandements les plus importants, le véritable amour, il se sacrifie. Les riches ne faisaient pas de sacrifices, mais ils donnaient de leur superflu. Quand est-ce qu'un don a de la valeur ? Quand ça nous coûte, Aurèle nous l'a rappelé ce matin. Quand on donne que ça nous coûte et qu'on le fait par amour, là, ce don, il prend toute sa valeur. Même si c'est peu. Même si c'est peu. Quand il est motivé par l'amour. Eh bien, Jésus, Dieu fait homme qui s'est fait notre plus proche prochain. Non seulement il s'est fait notre plus proche prochain dans son identité, mais il a montré dans son acte, un sacrifice qu'il a fait qui était bien plus grand que celui de cette pauvre veuve lorsqu'il a sacrifié sa propre vie, qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a montré son plus grand amour. Le plus grand amour, il l'a mis en évidence pour nous rendre capables à nous d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Par la mort du Messie sur la croix, il y a quelque chose qui est devenu veuve. C'est la loi de l'ancienne alliance. Par la mort du Messie, la loi de l'ancienne alliance est devenue veuve. Le peuple d'Israël n'était plus lié à cette voie, à cette loi. Par la mort du Messie et par sa résurrection, eh bien, le Messie, Jésus, s'est formé une épouse pour lier à lui, par une nouvelle alliance éternelle, tous ceux qui croiraient en lui et qui se sont repentis de leur péché. Il s'agit de nous qui formons son Église et qui sommes appelés l'épouse de Christ. Romains 7, verset 4 nous dit, Paul dans son épître aux Romains, Romains 7, verset 4, « De même, mes frères. » Et ça s'adresse à des Romains, donc pas à des Juifs, ça serait aussi aux non-Juifs que nous étions. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » La loi est devenue veuve. Nous appartenons maintenant à Jésus. Alors oui, Jésus a rendu possible d'aimer Dieu, non seulement de toute son intelligence, aussi de tout notre cœur. Et non seulement de tout notre cœur, mais aussi de toute notre force, comme nous y invite le premier commandement. Et j'aimerais terminer par une citation que j'ai tirée d'une pensée du jour, d'un calendrier, une méditation quotidienne, et qui dit ceci. Si je ne mets pas toutes mes forces au service des objectifs de Dieu, au mieux je m'ennuie, et au pire je deviens hypocrite. Transpirer au service des autres. Peu importe la taille de l'action, chaque calorie brûlée pour la cause du royaume génère des bénéfices pour l'éternité. Amen, je vais prier. Oui, Seigneur, on n'a pas fini de mesurer, de contempler tout ce que tu es, tout ce que tu as fait pour nous. Parfois, Seigneur, nous ne te voyons pas et nous oublions que tu t'es fait notre plus proche prochain, tu t'es incarné. Tu es venu pour être avec nous, Seigneur. Dieu avec nous. Oui, tu es le Dieu, non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Seigneur, aide-nous à te voir, à nous rappeler que tu n'es pas loin, Seigneur. À nous rappeler ta proximité, à nous rappeler que tu entends nos prières. Tellement tu nous aimes, tellement tu nous as aimés. Et tu l'as montré, Seigneur, tu as montré ce qu'est le véritable amour par ton sacrifice, Seigneur. Oui, Seigneur, ça t'a coûté d'offrir ton Fils, qui était d'accord de mourir sur la croix pour nous. Merci pour cet amour sacrificiel, Seigneur, que tu as montré pour nous. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à aimer notre prochain, nous n'arrivons pas aussi parfois à t'aimer, comme tu en es digne, pardon, Seigneur. Donne-nous vraiment un cœur qui brûle pour toi, Seigneur, et qui a de la compassion pour les autres, du pardon, de la patience, comme toi tu as été patient avec nous, comme toi tu nous as pardonné. Seigneur, merci de nous guider, Seigneur. Et tu es là, tu n'es pas loin. Merci encore parce que tu es une parfaite consolation, tu es la consolation pour tous ceux qui ont perdu un proche, Seigneur. Oui, Seigneur, on parle non pas à un mort, mais à celui qui est revenu d'entre les morts, à toi, Seigneur Jésus. Et toi, tu veux consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Nous te les remettons, il y en a beaucoup, Seigneur. Non seulement ici, mais aussi à l'étranger, tu as vu en Espagne, tu as vu en Ukraine, Seigneur, tu sais, au Liban, en Israël, en Palestine. Seigneur, que les gens te prennent pour leur consolateur et pour leur sauveur. Au nom de Jésus. Amen.